Ici, on parle de l'Église persécutée, l'interaction, en fait, avec les empereurs. Donc, on a les fils de Constantin. Donc, il y avait trois fils. Et je ne vais pas donner les noms, mais quand Constantin est mort, quand il est mourant, donc il a donné l'Empire romain à ses trois enfants, ses trois fils, pas les autres seuls, parce qu'il avait déjà tué de ses enfants, mais les trois restants. Et donc, eux, ils se sont entretués jusqu'à ce qu'il y avait un seul qui restait. Et celui qui restait, qui s'appelle Constance, eh bien, il était arien. Il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Alors, puisque Constantin croyait que Jésus était Dieu, au moins le concile de Nicée avait défini que Jésus était Dieu, et Constance croyait que Jésus n'était pas Dieu, alors changement d'empereur, changement de doctrine. Donc, ceux qui avaient été expulsés par Constantin, parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu, eh bien, eux, ils étaient rappelés, et les croyants qui croyaient que Jésus était Dieu étaient expulsés de l'Empire romain. Par la suite de Constance, il y avait un empereur qui s'appelle Julien l'Apostat. L'apostat, vous connaissez le mot? Apostasie, ceux qui se tournent de la foi. Alors, Julien, alors comprendre. Donc, le christianisme est devenu légalisé. Constantin a donné beaucoup d'argent et tout ça à l'Église, doté ça de pouvoir, d'autorité, d'argent et tout ça. Alors, c'est intéressant de travailler pour l'Église parce qu'on est ministre d'État. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont entrés dans l'Église qui ne sont pas croyants, qui veut dire qu'il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui sont hypocrites. Alors Julien a vu, c'est le neveu de Constantin, il a vu toute cette hypocrisie et comme tous les enfants, quand on voit les hypocrisies, on se détourne de la foi, quoi que soit la foi. Donc il s'est détourné de la foi et il a fait de son objectif de susciter les apostasies. Pour que les gens qui ne sont pas chrétiens se déclarent non chrétiens. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle Julien l'apostat, parce qu'il suscitait les apostasies. Il a fait ça par les persécutions sans violence et diverses vexations. Okay? Par exemple, Constantin avait fait en sorte que les évêques, les gens qui travaillaient pour l'Église, étaient non imposables. Et lui, il les a imposés. Ah bah, si on a beaucoup d'argent par le pouvoir de l'Église et on ne veut pas payer les impôts, donc on change de religion. C'est ce genre de choses. Il a aussi essayé de créer un paganisme qui correspondait au christianisme. Donc, il a créé une hiérarchie sacerdotale païenne pour la religion païenne. Il a créé les écoles de théologie pour le paganisme. Il a créé une liturgie. Donc, comme les catholiques avaient une pratique officielle tous les dimanches, eux, il a fait ça pour les païens. Et aussi un système païen de pénitence. Donc, tous le même que le christianisme, mais non chrétien. Il a aussi fait que les soldats ne pouvaient faire de demande à leurs supérieurs sans jeter de l'encens sur les autels païens. Donc, on donne une liste de diverses persécutions qui ont eu lieu. Je ne vais pas vous embêter avec cette information-là. Mais il est vrai que bon, les chrétiens sincères qui avaient une demande à faire à leur supérieur, eh bien, ils ne pouvaient pas mettre l'encens sur l'autel, donc ils ne pouvaient pas demander. Alors, Julien l'Apostat était empereur pendant 3 ans. Merci, Seigneur. Après, il y avait un empereur qui s'appelle Jovien, empereur pour 1 an. Après, c'était Valentin, qui était empereur 12 ans. Alors, Valentin était un soldat illettré et cruel et se disait chrétien. Il réorganisait de façon sage la fiscalité, il a fondé des écoles chrétiennes et mis sur pied un système d'assistance médicale pour les pauvres. C'était bien, hein, en tant qu'empereur. Après, il y avait Gratien, qui a été l'empereur pendant 8 ans. Il renonce au titre de souverain sacrificateur suprême d'une religion païenne. Donc, on avait dit que c'était Constantin. Là, on dit que c'est Gratien qui fait cette renonciation de Pontifex Maximus. Je ne sais pas lequel l'a fait, quel l'a fait, un des empereurs. Par la suite, c'est Théodose. Théodose était empereur 379 à 395. Donc, il était empereur pendant 16 ans. Il a fait en sorte que l'Église hiérarchique devienne la religion d'État. Donc, jusqu'à là, on pouvait être chrétien, c'était autorisé, et la religion chrétienne hiérarchique était dotée d'autorité, d'argent, et tous les bâtiments, tout ça. Mais on n'était pas obligé, on pouvait rester païen. Mais Théodose va faire en sorte que l'Église hiérarchique deviennent l'unique religion d'État. Donc maintenant, on va persécuter les païens. Donc, il y a une lutte contre le paganisme, la sorcellerie, la divination. On n'a plus le droit d'entrer dans le temple. Même le culte domestique au Dieu est interdit à la maison. Les temples païens étaient donnés à l'Église. Donc, c'est pour ça que on trouve. Même aujourd'hui, on trouve des églises comme à Béziers, l'église de Sainte Aphrodite. Donc Aphrodite, qui était la déesse païenne, et maintenant c'est Sainte Aphrodite parce que l'ancien temple est devenu une église. Mais le nom n'a pas changé. C'était toujours au nom de cette Aphrodite. Hein? Donc il dit il n'a pas pu enlever du Sénat l'idole de la victoire et fut obligé de prendre parmi les païens des hauts fonctionnaires. Alors, je ne veux pas me tromper le nom, Théodose était, ça semble, un chrétien sincère. Alors, il a fait quelque chose, je ne me souviens plus ce qu'il a fait, mais il était excommunié par l'évêque Ambroise, et il était obligé de se soumettre aux exigences épiscopales. Donc en 395, l'Église hiérarchique devient la religion officielle d'État, et à la veille de sa mort, l'Empire romain, pour la première fois, reconnaissait une puissance supérieure à la sienne. Donc, par ce processus d'adopter l'Église, de faire que l'Église soit l'Église d'État, donc il y a les lois, les droits et tout ça, l'empereur, qui avant était considéré comme Dieu, maintenant il doit se soumettre à l'Église. Donc, l'Empire reconnaît une puissance au-dessus de l'Empire. Alors, les résultats positifs pour l'État, il y avait maintenant plus de respect pour les femmes, le cercle était éliminé, les esclaves étaient mieux traités, il y avait une meilleure moralité et la législation était plus juste. Les résultats pour l'Église, donc il y avait une augmentation d'activité missionnaire donc payée par l'État, c'est ça qu'il veut dire. Il y avait déjà, quand les chrétiens étaient libres de l'État, il y avait beaucoup d'œuvres missionnaires. Mais c'est à cause de persécutions et tout ça que ça semble être estompé. Mais maintenant, on parle d'activités officielles de l'Église, donc de l'Église d'État. L'État s'est donné le droit de se mêler des problèmes spirituels et théologiques de l'Église. Donc, je vous rappelle, s'il y a un concile qui est convoqué, le concile est convoqué non pas par les pasteurs, mais par l'empereur, okay, parce que c'est un département d'État. Et donc, il dit, plusieurs païens furent obligés de faire profession de foi. Ils furent baptisés et furent pénétrés des coutumes païennes dans la religion chrétienne, par exemple la louange des héros, et remplacés par la louange des saints. Alors, quand Constantin, ou ce qui le précédait, persécutait les chrétiens d'une manière ou d'une autre, donc ils expulsaient de l'Empire romain, ils allaient à l'extérieur, donc c'était vers l'Empire perse. Mais les Perses le voyaient comme les chrétiens romains. Et donc, quand ils étaient en Perse, donc on ordonna que les chrétiens soient tués là aussi. Donc, ça semble que Constantin a écrit une lettre au roi de Perse pour lui expliquer que ce n'était pas le fait qu'ils étaient là n'est pas que ce sont les Romains, les espions, mais c'est les gens exilés. Et donc, par la suite, on a arrêté de persécuter les chrétiens dans l'Empire perse. Et puis, aussi les Goths avaient persécuté les chrétiens. Donc, un des chef des Goths avait été battu par Rome, donc il s'appelle Athanari. Et donc, dans ses armées, il y avait des chrétiens. Donc, il s'est vengé sur les chrétiens. Il ordonna à tout le monde dans son royaume d'offrir un sacrifice aux dieux païens et manger ensuite la viande offerte aux idoles. Conséquence d'une désobéissance à cela serait la mort. Beaucoup de chrétiens moururent. Ensuite, le roi mit une idole sur un char et allait de porte en porte. Ceux qui refusaient d'adorer l'idole étaient brûlés dans leur maison. Et puis, d'autres Goths sont venus contre Rome. Les Goths sont des tribus germaniques. Et donc, c'était 368 qui sont venus. Et en 410, ils ont pris Rome. Et puis, ils ont créé un royaume d'Ariens en Espagne, donc des chrétiens ariens. Beaucoup des Goths dans le militaire étaient des chrétiens. Ils étaient féroces, mais ils étaient chrétiens. Mais chrétiens, donc ils avaient été évangélisés par les expulsés, quoi, de l'Empire romain. Donc, ce n'étaient pas les chrétiens orthodoxes, mais c'était des chrétiens ariens qui croyaient que Jésus n'était pas Dieu en chair. Donc, c'est ces chrétiens-là qui ont évangélisé les Goths, et les Goths, étant guerriers, bah, ils étaient les soldats. Hein? Oui, et quand ils ont traduit la Bible dans leur langue, c'est une des premières traductions de la Bible, c'était dans la langue goth, ils n'ont pas traduit... je crois que c'est les livres des rois et les livres des chroniques. Parce qu'on disait qu'ils ont déjà suffisamment féroces qu'ils ne voulaient pas les inciter à la guerre. Donc, il est marqué là bon, que les Ostrogoths s'installèrent en Italie, les Lombards, et les Burgondies et les Francs se sont installés en Gaule. Gaule, donc la France, d'où vient le nom de Francs. Et le dernier empereur de Rome, ou à Rome, je devrais dire, parce qu'il y a l'empereur dans l'Est, à Constantinople, mais à Rome, le dernier empereur était appelé Romulus, et Romulus est mort dans l'année 476. Donc, c'est là qu'on dit qu'il n'y a plus d'Empire romain. Donc, ça, c'est laïque quand on dit ça, parce que l'Empire romain s'était divisé Est et Ouest, Donc l'Est continuait jusqu'à 1461, me semble. Donc Rome continuait et presque tous les pays, on va dire modernes, continuent à pratiquer certains principes de Rome. Donc si c'est une dictature, peut-être pas, mais tous les pays qui ont un Sénat, ils ont ce principe de Rome. Est-ce qu'ils ont un Sénat chez toi?
Mmh. Oui, le Sénat, mais il a été dissous avec le nouveau président.
Ah, d'accord, il y a un dictateur?
Qui?
Est-ce qu'il y a un dictateur?
Non.
Il a dissous le Sénat?
Oui. Ah, à la demande de la population.
Ah, d'accord, ok. Mais donc, quand on voit un Sénat, ben, on voit une pratique qui est très ancienne, c'était inventé par les Romains. Ok. Voilà, on s'arrête là pour ce soir.